ou en particulier, hein? Oui, en particulier, et centralement, les controverses, il faudrait trouver un mot plus précis, les désunions, les disciples même de Rabbi Akiva, qui était le soldat de Bar Kokhba. Simplement pour montrer à quel point cette brisure d'unité est très grave lorsqu'il y a des occurrences messianiques, puisque c'est elle qui mène à l'échec. Et ça pourrait être expliqué au niveau d'une psychosociologie élémentaire, mais encore une fois, ces problèmes-là sont vécus par Israël au paroxysme. Et on nous raconte que lorsque, déjà avant la période Bar Kokhba, lorsque les Juifs se défendaient contre les Romains à Jérusalem, il y avait trois armées juives. Et le jour où ils faisaient la guerre contre les Romains, la nuit, ils se faisaient la guerre entre eux. Alors, en fin de compte, les Romains ont gagné. Vous connaissez cet épisode? Alors, s'il est tué, c'est le signe, ou s'il n'arrive pas au bout du programme, c'est le signe, non pas que c'est un imposteur, mais que c'est un messie possible qui n'a pas réussi. Et pourquoi il n'a pas réussi? C'est le mérite de la génération. C'est pas le fait qu'il n'aurait pas pu être un Melech Mashiach. Dans le paragraphe précédent, je crois que c'est important de le comprendre. Maïmonide nous donne l'exemple de Bar Kokhba pour nous faire comprendre que nous avons un exemplaire possible, s'il avait réussi. Et retenez bien cela pour l'étude de ce soir, c'est très différent de la définition que nous aurons dans la messianité chrétienne.
Alors, c'est quoi? C'est la échouée. Kechol Malchebe David. Il est comme tous les rois de la maison de David, Ashlemim, parfait, Zakshirim et Kacher, ça vous comprenez peut-être.
Chez mes tous, ils sont morts. Mais là, Emidou a fait le droit au coup. J'ajoute un mot. Et a posteriori, nous devons comprendre, a posteriori, il se dévoile, c'est moi qui ajoute ça, que Dieu l'a fait dresser, l'a dressé, et l'a l'enassot pour Rabbin, pour mettre à l'épreuve sa génération. Rabbin, ça veut dire les nombreux, ça veut dire la collectivité. Effectivement, c'est une épreuve, et elle a échoué. Mais si elle avait réussi, ça aurait été une épreuve, elle aurait réussi. Est-ce que c'est pas évident? C'est pas une lapalissade. Et il faut toujours entendre cela, ça va dépendre du mérite de la génération. Et j'ouvre une petite parenthèse, et il y a eu énormément de maîtres de la tradition juive des grands-mères qui ont donné des dates à travers de lui. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés dans leur calcul. Ça veut dire qu'ils ont indiqué les époques où c'était possible, mais il n'y a pas eu le mérite suffisant. Maïmonide va d'emblée, au fait, en traversant toutes ces possibilités, en nous en donnant des exemples, au fait que quoi qu'il en soit, la foi juive à ce sujet, c'est qu'en fin de compte, il y en a un qui arrivera et qui réussira. C'est vrai. La Gemara nomme le Mashiach Barnafli. Mais c'est Barnafli, ça veut dire descendant d'avorté. Il y a eu énormément d'avortés. Lui sera le dernier par avorté. Barnafli, Nefel, un avorté. C'est comme ça qu'on dit en français. Un enfant qui a été avorté.
Un avorton,
ça a pris un accent. Un avorton est déjà né.
Oui. L'avorton n'est pas né.
Oui.
L'avorton est né, mais...
Non, le Nefel, c'est un embryon qui n'a pas pu naître. Mais ça ne veut pas dire que s'il était né, ça n'aurait pas été lui. Vous avez compris?
Oui.
J'ouvre tout de suite une parenthèse, une différence de nature entre Bar Kokhba, qui aurait pu, qui est dans la lignée des messies qui ont échoué, et puis Shabbat HaTzvi, où je la comprends. Ça, c'est différent. Ça, c'est des faux messies. Hein? Mais Bar Kokhba, dans cette analyse de Maïmonide, c'est un vrai messie que la génération n'a pas mérité. Alors les Romains ont été plus tôt. Pourquoi? Effectivement, il avait un aumônier militaire. C'était Rabbi Akiva. Et c'est pas n'importe quel chef politique qui a Rabbi Akiva comme aumônier.
Est-ce qu'il est considéré comme un messie possible parce qu'il est arrivé après 50-60 ans de servitude complète? Ou bien pourquoi ne pas faire bénéficier de ce titre aussi donc jusqu'à là, Menachem, enfin les gens de la révolte de 70.
Voilà, il y a dans cette aventure toute une hiérarchie de lieutenants, capitaines, colonels, mais il y a... Lui était au top, les autres c'était des lieutenants aussi. C'était des...
J'ai compris.
C'était pas à l'échelle de la collectivité d'Israël. C'était des chefs de bande, de bande dans le sens positif. Hein. Si cette bande de jusqu'à là ou d'un autre, avait réussi à être représentatif de la collectivité d'Israël, oui, il serait au niveau Melech HaMashiach. Mais il n'a été qu'au niveau Sibalkem. Je voudrais avoir le temps de mettre en évidence, à ce point de l'analyse, deux choses. Premièrement, ce Maïmonide nous est nécessaire, parce qu'il remet le Messie sur terre juive, sur terre juive. Mais il y a une autre partie qui est difficile, c'est que mettant l'accent sur ce premier niveau, il nie le deuxième, l'étape de la transfiguration messianique de la fin du temps. Et nous devrions pouvoir avoir plus de temps pour en parler, mais je tiens quand même à le signaler. Et il me semble que, pour ça il faut bien mettre en évidence, je le dirai un peu plus en détail ce soir, que l'époque messianique a un début et une fin. Et que Maïmonide semble projeter dans un temps qui n'aurait plus de fin, ce qu'il nous dit, et que nous savons d'autre part, par d'autres sources, sur les débuts du temps messianique. Dans le vocabulaire que j'emploie dans ce séminaire, je vous donnerai un certain nombre de repères, dont moi je n'ai pas, nous n'ayons pas de tableau, on va essayer de visualiser. On va essayer de visualiser. Il y a d'abord le temps de ce monde-ci, Olamazé. À la fin de Olamazé, l'événement étant la fin de l'exil, alors commencent les temps messianiques qui ont un début. Ça commence avec ces signes qu'il nous donne au début, okay, et qui est Mashiach ben Yosef. Ensuite se développe les dix mots de Mashiach, les temps messianiques qui aboutissent au Mashiach ben David, qui est le Messie de la résurrection des morts, des miracles de transfiguration du monde. Et après c'est Olam Haba, après c'est l'autre monde. Et semble-t-il, Maïmonide est important pour nous parce qu'il clarifie la définition du commencement de l'état messianique. Ça se passe sur terre et dans les conditionnements miraculeux à travers les lois de la nature, mais à travers les lois de la nature. Et il le dit en clair. Vraiment, il semble mettre un blackout définitif sur la deuxième étape. Tout se passe comme s'il ne parle que du Mashiach ben Yosef. Il y a une certaine controverse entre Nachmanide et Maïmonide à ce sujet, mais ce serait trop simple de dire tout simplement ce que je vais dire, c'est qu'il ne parle pas du même Mashiach. C'est trop simple. Il y a vraiment une controverse entre
eux. Mais en plus, qui emploie même le terme de
Beth-David, mais là, non, là je ne crois pas que. Ça, je vais dire pourquoi.
Il faut quand même prendre au sérieux ce qu'écrit Maïmonide.
D'accord. Parce qu'il ne dit pas Mashiach ben David. Il dit
Meler mi Beth-David.
Mais Meler mi Beth-David, il commence par dire chez Marzir et Malchut David. Parce que nous avons une tradition.
Ici, dans le chapitre.
Oui.
Yamot, Meler, mi Beth-David.
Oui. Mais je ne crois pas que l'expression ben David, dans son sens messianique, ça signifie uniquement la filiation généalogique, qui est première. La notion de Ben David, c'est l'étape suivante de David. Et nous avons une tradition qui dit que le roi David a été lui-même Mashiach ben Yosef. Ça veut dire qu'il a réalisé lui-même la fonction du Mashiach ben Yosef. C'est ce que je voulais signaler tout à l'heure pour recoder les deux vocabulaires, mais la controverse entre Nachmanide et Maïmonide reste entière, et Nachmanide dit, bon, finalement, ceux qui assisteront au temps messianique verront bien qu'il y a eux.
Je voulais te poser une question.
Oui.
Lorsque tu parles de Bar Korba, tu as mis l'accent sur le fait que cette potentialité messianique n'a pas réussi essentiellement à cause du manque de mérite de sa génération.
Oui.
Mais nous avons pourtant des textes, je pense en particulier, ce texte célèbre dans Echa 2, là, le Midrash sur Lamentation, chapitre 2, qui décrit également les fautes
personnelles de Bar Korba.
Que rappelle d'ailleurs Maïmonide dans le chapitre précédent que tu n'as pas lu, il y en a deux, n'est-ce pas ? L'une qui n'est pas dite d'ailleurs en clair, mais que les historiens d'ailleurs ont confirmé, c'est-à-dire que Bar Korba, parce qu'il a voulu mettre sur pied une armée, et que ce soit formé de gens qui soient forts et qui soient courageux, demandait comme épreuve à chacun de se trancher un doigt.
Oui.
Et les sages l'ont écrit pour protester en disant tu vas créer des hommes qui ont un défaut, qui ne seront plus des hommes intègres. Et ce sont les sages qui ont suggéré à Bar Korba de remplacer cette épreuve par une autre qui consistait à arracher un sel du Liban. Si bien que son armée était formée de deux parties, la moitié de ces soldats, il leur manquait un doigt, et l'autre moitié, c'était des gens qui avaient arraché chacun un sabre du Liban. Le deuxième événement, auquel d'ailleurs fait allusion très clairement, enfin plus qu'allusion, très clairement Maïmonide, en disant qu'il a été tué à cause de ses péchés, c'est ce qui nous est rapporté dans le Midrash, qu'il avait avec lui, parmi ses plus que conseillers, son oncle, qui était Rabbi Eliezer Hamodai, si je me souviens bien. Qui était un Cohen, qui était un prêtre, et qu'il l'a tué à la suite d'ailleurs d'un d'un complot fait par un ennemi d'Israël qui a dit aux Romains, moi je vous arrangeais ça, et qui s'est arrangé pour faire croire que Eleazar Armodai allait trahir, allait livrer la ville, mais Bar Kokhba l'a tué, et aussitôt, c'était une voix céleste, dit le Midrash, la ville sera détruite.
Exact. Est-ce que je vous avais dit?
Je crois quand même que c'est important aussi de signaler qu'il y a cette double chose. Oui. Il y a le nom de régénération, et il y a aussi ce glissement de la part d'un homme qui commence avec un cachère, en tenant la Torah, bien que dès le départ il y a ce problème des hommes au doigt coupé, mais qui se termine par un meurtre qui va sceller son sort, le sort de sa messianité.
Quelqu'un peut poser la question, mais c'est très lié.
Absolument.
Parce que la qualité d'envergure du leader d'une génération dépend du niveau de mérite de la génération. Si la génération, on pourrait dire les choses des deux manières. Si la génération méritait suffisamment, alors toutes ces tendances de défaut de Bar Kokhba lui-même, se seraient résorbées. Mais comme il n'y a pas eu de mérite suffisant au niveau de la génération, elles se sont au contraire niblées, tout, elles se sont au contraire dévoilées. Et par conséquent, tout, ces deux choses sont liées, c'est évident. Parce que ça, c'est un grand principe. C'est qu'il y a une solidarité de mérite entre les leaders et leur génération, les générations et leurs leaders. Je pense que c'est
facile. On est parfait dans une génération parfaite.
C'est très important le niveau de la génération. Et nous avons énormément d'exemples, je n'ai pas besoin de les citer, mais les comparaisons que font les Midrash entre Noach et Abraham, par exemple. Et c'est un principe, il me semble, très clair. Il y a une solidarité d'envergure d'identité entre la génération comme telle, chaque génération a une identité à elle-même, et d'autre part, les individus de la génération, en particulier les leaders. Ça pourrait être expliqué des deux manières, corollaire.
Il y a encore plus, d'ailleurs, il y a encore plus grave, si je puis dire, c'est que lorsque Rabbi Akiva annonce ou reconnaît Bar Kokhba comme étant le Messie, c'est cité dans le Yerushalmi et également dans le Midrash, il y a je ne sais plus quel rave qui lui répond, les pissenlits pousseront sur ton corps, que le Messie ne sera pas. Ah, le Messie ne sera pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Là, c'est une difficulté pour Maïmonide qui parle de l'adhésion unanime des gens à la messianité de Bar Kokhba, alors qu'en réalité, il semble que Rabbi Akiva n'ait pas été suivi par la majorité des sages dans la reconnaissance de Bar Kokhba comme Messie.
Très bien. Puisque tu as ajouté ça, j'en profite. Parce que ça fait partie de la notion de mérite de la génération. Il est évident qu'on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers, on ne sait pas ce qui serait passé si les autres maîtres contemporains de Bar Kokhba avaient aussi adhéré. Mais je crois que ça fait partie justement des faiblesses et des défauts de cette génération qui n'est pas l'unanimité. Ça va dans le même sens.
C'est bien fait.
D'accord.
Même si ma remarque n'est pas innocente.
D'accord. Mais je t'ai donné une réponse, même si elle est intentionnelle. je crois qu'il faut comprendre ça très clairement. C'est le débat contemporain. Il faut avoir les yeux ouverts et les oreilles aussi. Il est évident que on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers. Mais on peut dire tout autant, qu'un des démérites de la génération, c'était non seulement la sinat chinam des talmidim entre eux, mais aussi la non-concordance d'unanimité des maîtres entre eux. C'est évident. Je crois que ce n'est pas par hasard que la tradition tout entière que cite Maïmonide et met en forme, nous est donnée précisément comme exemple d'un messie qui aurait pu être cachère jusqu'au bout, si la génération avait mérité celui-là et pas un autre. Je voudrais signaler une chose. On cite toujours la controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Zakkai sur le problème de savoir si à cette époque il fallait instaurer cette révolution nationale contre les Romains qui aurait pu réussir si Bar Kokhba avait réussi, ou au contraire prendre acte que c'était bouché, qu'il fallait se replier uniquement dans la dimension de l'étude de la Torah, ce qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et vous avez des analyses classiques chez les historiens, même dans le temps contemporain, d'opposer deux doctrines, Rabbi Akiva, pour le dire en termes contemporains, si vous voulez, Rabbi Akiva, le sionisme, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, la yeshiva. La stratégie de Rabbi Yochanan ben Zakkai a sauvé le peuple juif à travers la Torah, c'est l'enseignement classique. Mais on oublie une chose, c'est que toute la Torah postérieure à ce temps-là, c'est celle des élèves de Rabbi Akiva, et pas de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et on oublie qu'il y avait la deuxième dimension aussi chez Rabbi Akiva. Donc, je crois que la précision était importante. Gardons les deux choses, c'est-à-dire le mérite de la génération comme telle. Là, il faudrait bien réfléchir à cette notion de l'historiosophie juive. c'est que chaque génération d'humanité a son identité propre. Et par conséquent, étant donné que la génération en tant que telle d'or n'a pas eu de mérite suffisant, les individus exemplaires de ce d'or, les leaders en particulier, Bar Kokhba, ont été handicapés. Et alors, leurs défauts personnels se dévoilent. Mais si le mérite de la génération était celle d'une transfiguration plus grande, leur tendance aux défauts personnels se serait résorbée. Mais encore une fois, on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers. C'est évident. Ce qui est important, c'est que cet exemple qui nous est cité comme modèle, et retenez bien que ça n'a rien à voir avec les aventures de type Charlotte Elsie ou Jacob Frank, ou d'autres d'ailleurs. Mais je n'ai pas eu le temps de relire en détail la lettre au Yémeni d'Igeret Teman de Maïmonide. Il donne, je crois que le commentateur lui-même donne le nom d'un faux messie au Yémen. J'ai oublié son nom, donc rien n'a eu aussi au Yémen.
Je l'ai là.
Okay. Bien, alors là, ça va devenir un peu palpitant. Hein? Ve'im ne'etzliya hadko, et s'il n'a pas réussi jusqu'au bout, on est hérai et qu'il est tué entre-temps. Be'yadouar she'enozeshi t'icha ala la Torah. Alors, il se dévoile évidemment que ce n'est pas de lui que la Torah avait parlé dans ses promesses. Ve'arehu kechol malchel de David, et il est comme tous les rois de la maison de David, ashlemim, parfait, ve'aksherim, kacher, shemetu, qui sont morts. Et Dieu ne l'a dressé que pour mettre sa génération à l'épreuve. Et ça veut dire, vous méritez, c'est lui, vous ne méritez pas, c'est pas lui. C'est bien clair pour cette année. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, dans un verset très important de Daniel, du livre de Daniel, où mina maskili mi kashfu, et parmi les intelligents, il y aura ceux qui se tromperont. Je veux dire, les plus intelligents se tromperont. L'itzrof bahem, ce terme de l'itzrof, Tsirouf avec Tzadé, ça veut dire mettre à l'épreuve comme on met à l'épreuve un métal dans un creuset. Ou varer, laver, ou épurer, mettre en évidence. Laver, ça a aussi un peu ce même sens. Laver, épurer, rendre propre. Ah, et ketz, jusqu'au temps de la fin, qui a haut de la moelle. Parce que pour ce temps de la fin, il y a encore du temps pour le rendez-vous. Et il y a là un thème important dans ce verset. Ça veut dire que Daniel, dans son livre, prophétise qu'il pourrait y avoir X et Y et éventualité de ce genre, jusqu'arrive le temps ultime où c'est plus une mise à l'épreuve, où c'est plus une éventualité, où c'est fini, et où lorsque l'événement arrive, c'est celui. C'est la notion de Ketz, ça veut dire la date du Ketz Megoulé, de la fin dévoilée, la date ultime, et d'autre part les dates possibles. Quoi, je reviens un petit peu en arrière parce qu'il me semble important de l'éclairer. Par exemple, nous avons un de nos grands maîtres, qui s'appelle le Malbim, qui a donné une date de l'éventualité possible historiquement de l'événement messianique, de la fin de l'exil et de l'arrivée du Messie. Et puis, cette date est passée, et puis c'est rien passé. Alors on a dit, voilà, Malbim.
Il vivait au XXe siècle, 1839 et 1879.
Et il y en a eu énormément d'autres, à travers tous les siècles. Malbim, d'abord il joue à faire des calculs, et puis il se trompe dans les calculs. Alors si Malbim s'est trompé sur une chose aussi importante, la date de l'arrivée du Messie, tout ce qu'il nous dit de la Torah d'autre part, est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce que vous comprenez la gravité du problème et de sa problématique? Malbim ne s'est pas trompé, pas plus que les autres. Il a donné une date de possibilité. Je fais partie personnellement d'une tradition, d'une école sur ce sujet, qui est que toutes les dates possibles sont passées, kalou kolapitsim. Et qu'il ne s'agit plus dans les événements que nous vivons de ces dates éventuelles de possibilité. Bon, mais ça, c'est l'option personnelle, si vous voulez. Et le quête est d'une autre nature. Je dirais très rapidement. Toutes les dates possibles dépendent du mérite. S'il y a mérite, ça réussit. S'il n'y a pas mérite, ça ne réussit pas. La date du quête de la fin ultime ne dépend plus du mérite. Et ça donne un éclairage important à tout notre problème. Si ça ne dépend plus du mérite, ça vient avec la loi des temps. Alors ça ne vient pas à travers des miracles dévoilés. C'est quand ça dépend du mérite que ça vient à travers des miracles dévoilés. Et ça, c'est ce qu'il y a le minus, comme on dit en hébreu, je sais pas comment on dit en français, le moins dans le problème. Hein?
Le minimum.
Pas le minimum. Ça, c'est le. Un minus, c'est pas d'avoir, vous dites?
Le côté négatif.
Le côté négatif. Rien de tout. Il y a un côté positif. C'est que ça veut dire que si ça ne passe pas à travers notre mérite, c'est entier, irréversible, irrémédiable, parce que c'est la volonté de Dieu qui ne passe plus à travers notre mérite, mais à travers sa promesse, l'accomplissement de sa promesse. Mais je crois que quand même, c'est clair jusque-là, mais je crois que quand même, il y a un mérite colossal. Il ne s'agit pas de mérite au niveau des actes, c'est un mérite d'une toute autre nature, c'est le mérite au niveau de l'être qui a fait que le peuple d'Israël a tenu le coup dans l'histoire et il l'est. Ce mérite-là est colossal. Je referme la parenthèse, c'est une analyse qui nous renverrait ailleurs, mais je pense que le verset de Daniel est suffisamment clair. Daniel nous avertit que le fait de risquer de se tromper sera le fait des plus intelligents, à masculin, Mikachou. Et cela, chaque fois qu'il y a une éventualité jusqu'à la fin. À la fin, c'est autre chose. Mais chaque fois qu'il y aura une éventualité, elle est pour la mise à l'épreuve, elle est pour le progrès dans la messianité authentique, et pour la fin, à haut de la moelle. Ça, il n'a pas voulu dire la date. Il l'a dit quand même, mais elle est Benistar. La date que vous citez pas, elle est quand même dans le livre de Daniel. Et, si vous voulez, la controverse poète de notre temps, aussi dans la lecture du début du verset, où il y a masculine et cachée. Les sionistes disent que c'est masculine qui se trompe, c'est les antisionistes. Et les antisionistes disent que c'est masculine qui se trompe, c'est les sionistes. Et je crois qu'on ne peut pas en sortir. Hein. C'est une option. Et c'est l'évaluation de l'option qu'il faut mettre en ligne. Bien. Alors, voilà ce qu'ajoute Mme Rambam. Combien de temps me reste-t-il? Allez, il faut avancer dans le texte. Tu as une question à poser?
Il venait de voir maintenant. Angle de droite, feuillet, troisième feuillet, oui. En haut de la page.
Et le Rambam va nous donner deux exemples. Yeshua. Oui, c'est la suite de la parenthèse qui avait été censurée par les censeurs chrétiens.
Chrétiens. Non pas musulmans.
Non pas musulmans, oui. Af Yeshua à notre. Et même, puisque Maïmonide a mis Yeshua, je vais lui dire en français Jésus le chrétien, en réalité, il faudrait dire Jésus de Nazareth. Nazareth. Non, c'est absolument pas de Nazir, parce qu'il s'agit de la ville de Nazareth. Parce qu'il est né à Bethléem, mais dans le récit, dans le récit. Mais il a fonctionné, si j'ose dire, à Nazareth. Mais non, si vous voulez.
Il y a Nazareth, c'est bien ce que dit la Bible.
Oui, oui. Non, parce que, je veux dire, en hébreu, il y a un tzadi. Et c'est, en français, on dit Nazareth avec un zaïm. Et alors, ça fait analogie avec le Nazir qui est un zaïm. Mais en hébreu, c'est un tzadi. Oui. On raconte une histoire, je vous raconte en passant, dans le folklore ashkenaz d'ailleurs, qu'il y avait un juif qui, pour les raisons qui étaient les siennes, s'est converti au christianisme. Et alors, ses amis lui ont dit, comment toi, tu deviens chrétien? Il dit, vous savez ce qu'il y a dans la prière du jour de Kippour, à la fin de la Hamida? Ad shelo notzarti, keilu lo notzarti. Ad shelo notzarti, lo haiti kedai. Et achshav, shenotzarti, keilu lo notzarti. Les Hébraïens ont entendu. Ça veut dire que, pour traduire en français, le texte de la prière dit ceci, une prière de confession, tant que je n'avais pas été formé par toi, par un signe Yatsav, et l'Oaïtikedaï, je n'étais pas valable. Mais, et maintenant que j'ai été formé, c'est comme si je n'ai pas été formé. C'est une prière d'humilité. Alors comme le mot en hébreu signifie aussi, l'Eitinatser, se convertir au christianisme, alors il a répondu comme ça. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Il y avait une blague, mais ça c'est un folklore français. Et c'est un joueur juif qui s'était converti au christianisme juste au moment de mourir. Et c'est un juif très très pieux. Alors sa femme lui a dit, comment toi, tu te convertis au christianisme? Il dit, écoute, je préfère que ce soit pas un juif qui meurt. Bon, c'est grave. Revenons à notre texte. Alors, Af Yeshua à notre, et même Jésus de Nazareth, comme je traduis, vous pouvez traduire le Nazaréen, mais c'est pas la lecture. J'aurais surtout à expliquer ce soir la figure de ce Jésus dans le texte des évangiles. Je ne parlerai pas, et je le dirai très clairement en introduction, de la personne historique éventuelle, qui je crois n'intéresse pas du tout le débat des deux messianiques, mais la figure représentative. Et avec le postulat qu'il n'y a pas eu un Jésus de Nazareth dans l'histoire qui serait celui dans lequel les chrétiens croient. Il y a peut-être eu quelqu'un, fondateur de la secte ou objet de la secte. Mais ce n'est pas dans l'histoire celui auquel les chrétiens croient, c'est une figure que j'essaierai d'expliquer en décryptant, en décodant, d'après les catégories du Midrash, de la tradition juive elle-même. Et donc, ici, je vous dis ce que Maïmonide dit. Et si, évidemment que ce n'est pas possible, si c'était moi qui avais écrit ce texte, on ne refait pas l'histoire à l'envers. Mais je n'aurais jamais parlé comme de quelqu'un qui a existé. Parce que, de deux choses l'une, la figure dont parlent les chrétiens a existé historiquement, c'est les chrétiens qui ont raison, ou l'être qui a existé historiquement ne peut pas être reçu dans cette figure par le judaïsme, alors c'est qu'il n'a pas existé historiquement. Et je pense que c'est clair. Et donc, mais je vais vous lire comment Maïmonide l'écrit. Bon, de ça, je m'expliquerai plus en détail ce soir. Chez Bima, il s'est montré comme si, chez Yemashiach, il était le Mashiach, venu Herak Bebeddin, et a été tué par le tribunal, par décision du tribunal, que Var Miknabe Bo Daniel. Déjà, Daniel, dans sa prophétie, a fait allusion à lui, ça veut dire a fait allusion à une éventualité de ce genre. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ubne Paritsi, Ubne Paritsi Amecha, et les fils de brigands de ton peuple, Inas Ule Ahamid Hazon Venirchal, essayeront d'élever une vision, un mythe, Venirchalou, et ils échoueront. Vechi, est-ce que, dit Maïmonide, Yesh Mirchol Gadol Mise, il y a un échec plus grand que celui-là, chez Kolanevim, dit Brou, que tous les prophètes ont dit, chez Mashiach Goel Israël, que le Mashiach doit délivrer Israël, Moshiam, et les sauver, ou Mekabet Mitreem, rassembler leurs exilés, ou Mechazek Mitvotan, renforcer leur Torah, Vezé Garam Leave d'Israël Bahéel, alors que le résultat de ce que lui a fait, c'est tout le contraire dans tout le programme, Garam Leave d'Israël Bahéel, il a contribué au massacre par l'épée d'Israël, ou Fazer Sheheritam Lashpilam, disperser leurs rescapés et les humilier, ou la Chlifa Torah, changer la Torah, ou la Trot Rova Olam, et tromper la majorité du monde, la Avod Eloka, adorer un dieu, mais Balade Hachem, hors du dieu vrai. Et vous comprenez pourquoi les censeurs chrétiens ont annulé ce texte de Maïmonide. Il y a cette légende, ce cliché chez les historiens, que Maïmonide aurait reconnu que le Christ, pour sa part, c'était très important pour faire avancer le message de la Torah chez les peuples non-juifs. Aval, Mecheshbon Boré Arlam, ça fait à posteriori. Mecheshbon Boré Arlam.
Non,
Marchevot Boré Arlam. Les intentions du Créateur du monde, El Koach Ba'adam et Asigam, il n'y a aucune possibilité pour l'homme de les atteindre. Ici la question est, alors pourquoi Dieu a laissé faire tout ça? Qui, l'Odrachenu Rachav, car nos sentiers ne sont pas les siens, et le Marchevoté ne marchevot pas, nos pensées ne sont pas les siennes, la citation d'un verset d'ici. Mais qu'on a de Varim Aelou, et toutes ces choses-là, chez les Yeshua Notzri, celles qui concernent Jésus le chrétien de Nazareth, et chez Zéhaïch Me'eli, et de celui-là le musulman, chez Ahmad Harab, qui s'est dressé après lui, l'allusion est à Mahomet, et Nanela, les Yacher, Derech, la Melech HaMashiach, ne sont que des stratégies pour préparer la venue du roi Messie. Ou le Taken Arolam Kulo.
Taken.
Oui. Et comment nous traduisons ici les Taken? Et pour oui. Non. Les Taken, ça veut dire mettre au point, oui, un peu dans ce sens-là. Le monde tout entier, la Havod et Hashem Be'achad, pour servir Dieu ensemble, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, qui a Zerpo Kelechad Ami, Safabroura, car je verserai sur les peuples une langue épurée, l'Ikrokulam Beshem Hashem, pour invoquer tous le nom de Hashem, le Rodosh Kamechad, et le servir d'une seule épaule, ensemble. Le sens, me semble-t-il, de ce qu'enseigne ici Maïmonide, c'est de dire, pas question de donner foi à cette légende qu'il s'agirait dans un cas ou dans l'autre d'un vrai Messie, mais que tout cela, c'est pour aider l'humanité entière par le fait qu'elle est au moins chrétienne ou au moins musulmane à se préparer au temps de la messianité d'Israël réelle, de telle sorte qu'ils seront beaucoup plus proches. Est-ce que cette stratégie, c'est l'opinion de même, est-ce que cette stratégie est efficace? Est-ce qu'elle n'est pas efficace? Je ne sais pas. Hein? Lisez-le.
Quel numéro? Quel référent?
Il y a le roule à prix.
Il y a le roule à prix.
Ça revient au même.
Oui,
ça revient au même.
C'est le même mécanisme à l'envers.
Non, mais finalement, ça revient au même. Non, et je pense que l'expérience de beaucoup de conversions au judaïsme, qui viennent en particulier du monde chrétien, suivent ce processus. Simplement, je ne sais pas, c'est difficile. Vous savez, le monde chrétien, pendant des siècles et des siècles, 2000 ans, c'est long, 1900 et quelques, mais c'est long, a touché des millions et des millions de consciences qui étaient donc dans l'erreur pour que, en fin de compte, quelques-uns, à la fin des temps, soient préparés à devenir juifs.
Mais Maïmonide, je précise, il dit comment ça va se faire. Et le passage suivant, il le dit comment dans sa perspective. Il le dit, Maïmonide.
Je vais y arriver. Ce que je crois, c'est, simplement, je voulais ajouter ceci. C'est que Maïmonide s'adresse à ses juifs, aux Hébreux, enfin à Israël. Il le dit, ne soyez pas impressionnés par la réussite de ces mouvements hérétiques. Il y a une stratégie qui les concerne, eux. Et qu'ils disent que ce sont des méfis. En réalité, leur expérience spirituelle chrétienne ou musulmane les préparera à la messianité réelle. Mais vous, les juifs, vous devez savoir qu'il n'y a là que hérétique. Est-ce que j'ai réussi à montrer les deux aspects du problème? Ça ne veut pas dire du tout que Maïmonide a bilitré que Jésus aurait été un vrai messie ou que Mahomet aurait été un vrai prophète. Là, il y a un décalage. Jamais Mahomet ne s'est présenté comme messie, mais comme prophète. Finalement, si on se pose la question, et comment se fait-il que dans la stratégie de la Providence, cela se soit passé quand même, alors la réponse qu'il nous donne, c'est que ça va servir au moins à cela, à la préparation au temps messianique. Je ne sais pas, pour moi, je suis encore vraiment en débat sur ce point. Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus aisé qu'un non-juif, n'ayant pas connu le christianisme ou l'islam, devienne Israël, que quelqu'un qui est passé, qui soit passé par le christianisme ou l'islam? Je ne sais pas. J'ai une expérience trop peu nombreuse des quelques centaines de cas que j'ai connus. C'est pas suffisant, mais enfin, j'ai pas de réponse là-dessus. Est-ce que Maïmonide est là optimiste, utopique ou pas? Je ne sais
pas. Je vais poser une question. Il me semble, enfin, d'après le peu que je connais de cette question, que Maïmonide est assez isolé dans la tradition juive en défendant cette position. Même que, je faisais remarquer avant-hier, il est assez isolé en prenant l'opinion que l'époque messianique sera basé loin de la nature sans modification, n'est-ce pas?
Alors là, je pourrais dire qu'il est seul. J'ai eu la vision tout à l'heure.
Il est seul. Il a Shmuel quand même, n'est-ce pas?
Ah non. Si nous avions le temps,
il se base sur Shmuel.
Je vais voir la Gemara de Shmuel et dire jamais. Il se base, mais.
Il suit Shmuel.
Je veux dire, si nous avions le temps, nous verrons que la Gemara ne va pas dans son sens.
Non, il dit que.
Oui, et il se base, mais après, non, Shmuel.
Parce qu'il y a d'autres textes dans la Gemara dans lesquels on discute pour savoir s'il vaut mieux être chrétien ou païen, par exemple, n'est-ce pas? Et Maïmonide a une position qui me semble-t-il, est passé sur son.
Non, j'ajouterai une phrase. Peut-être c'est à ça que tu penses. Lui, il aurait tendance à dire, pour un goy, il vaut peut-être mieux d'être chrétien que païen, mais pas pour un juif.
Absolument, je parle toujours du point de vue des nations. Juste en disant qu'il y a un aspect positif, il me semble qu'il est assez isolé, la tradition juive, à défendre cette opinion.
Je veux dire quand même mon avis là-dessus, mais c'est vraiment une opinion, c'est pas la Torah. C'est que, peut-être à l'échelle individuelle, ça a mis beaucoup d'individus sur le chemin de la vérité. Mais à l'échelle collective des civilisations que ça représente, l'islam, comme la chrétienté, c'est un échec colossal. À l'échelle individuelle, oui, ça a mis telle ou telle personne humaine sur le chemin de la vérité. C'est possible. Mais je ne crois pas que ce soit ce que Maïmonide veut dire vraiment. Je ne crois pas que le monde sera préparé à la messianité d'Israël parce qu'il y a eu l'islam ou la chrétienté. Je pense que l'adhésion de la culture humaine à la messianité d'Israël viendra beaucoup plus de l'humanisme de l'éthique morale que des théologies chrétiennes et musulmanes. En ce sens que, vous savez, j'ai fait allusion parce qu'hier soir déjà il y a eu ici même une séance en commémoration de la mémoire de Jules Isaac, et j'ai rencontré dans les couloirs un des représentants de l'ambassade des chrétiens pour Israël. J'ai un peu étudié la question à Jérusalem même. Eh bien, il me semble de façon très claire qu'en tant qu'ils sont diaspora d'Israël, c'est ainsi qu'ils se définissent, les ambassades pour Israël, eh bien, ils sont hérétiques complètement avec la théologie de leurs églises, quelles qu'elles soient. Et que leur ressort d'adhésion à l'aventure d'Israël vient d'un humanisme éthique et non pas du tout du dedans de leur foi, même quand ils le disent. Parce que s'ils étaient conséquents avec eux-mêmes, ils devraient quitter leur église. Ils devraient accepter l'excommunication de la part de leur propre église. Je pense que vous êtes d'accord sur ce domaine. Je crois que, par exemple, même, si nous parlons de Jules Isaac, le fait même des amitiés judéo-chrétiennes, ce n'est pas un phénomène théologique, ni des juifs, ni du côté des juifs, ni du côté des chrétiens. C'est un phénomène de civilité de la société française. en France, Suisse, en Suisse, etc. Parce que si c'était un phénomène qui procédait des théologies, il y a longtemps que ça serait passé, vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a là un problème qui mérite d'être signalé, et ça se branche sur ce paragraphe de Maïmonide que nous venons de lire. Je crois, puisque je parle de cela, c'est un bien qu'il y ait un phénomène de convivialité, par exemple en France, entre juifs et chrétiens. Mais c'est une amitié entre juifs et chrétiens en tant que français. Et, amitié judéo-chrétienne, ça je ne comprends pas. Il n'y a pas de judéo-christianisme. Amitié entre juifs et chrétiens, ça je comprends. Et c'est un phénomène de la cité, pas des églises. Je pense que c'est clair.
Oui, mais en fonction de ce que vous disiez hier soir, et je vous ai déçu, vous m'avez dit vous laisserez parce que j'avais donné mon avis, je crois que les chrétiens, les catholiques en particulier, sont de moins en moins sensibles à l'aspect théologique ou dogmatique, c'est-à-dire à l'aspect de la culture naturelle, et qu'ils sont, que l'Église est en train de virer, sans savoir ou en sachant, à la religion naturelle. Ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que ce sont les valeurs humanistes et morales qui poussent vers l'Église. Mais il n'en reste pas moins que. Quel que soit le côté théologique qu'ils ouvrent, tous les amènent à Jérusalem, tous les amènent au peuple élu et tous les amènent à Sion.
Écoutez, je veux dire, ce que vous dites là, ce que vous dites là ne me déçoit pas du tout. Parce que les choses se dévoilent finalement, qu'il s'agissait d'une religion naturelle. Très bien, ça donne raison à Judas Lévi, dans le cours de ce matin. Mais, je vous avais dit hier soir, ce qui me déçoit, ce serait la sincérité de la mise au point sur la notion de déicide. Parce que si cette mise au point, de déicide, vous rappelez, parce que si cette mise au point n'est pas sincère, dès que la chrétienté se redonnera le droit de persécuter les juifs, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça peut être cette passion de penser à quelqu'un comme l'assassin de son Dieu. C'est une passion dévastatrice, vous comprenez le problème. Alors les mœurs aujourd'hui empêcheraient les inquisiteurs de fonctionner, mais si jamais les mœurs changent, c'est ça qui m'inquiète, vous comprenez. Et c'est pourquoi j'ai donné comme signe d'évidence, le fait que l'Église n'arrive pas à reconnaître l'État d'Israël, ça va dans l'autre sens. Ça veut dire que le fait de mettre une croix sur le déicide, ce n'était pas sincère. Je pense que c'est clair.
Encore, il faut dire que l'existence historique de Jésus était le signe distinctif de la foi. Elle était hérétique, on est toujours hérétique si on dit que Jésus est, comme vous avez dit, une figure possible.
Ah non, ça c'est moi qui l'ai dit. Je suis saintement hérétique du christianisme, ça y a pas de doute.
Mais les chrétiens y croient de moins en moins.
À l'existence historique. Ça va un peu dans le sens que vous dites. Je vous dirais, si vraiment il croit de moins en moins à l'existence historique, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on a tué personne. Mais je vais vous dire, j'ai souvent entendu cette blague en milieu chrétien. Ah, moi, vous savez, je ne crois pas en Jésus, mais les Juifs l'ont tué. Et c'est grave, ça, vous comprenez? Il y a quelque chose à mettre au point là-dessus.
La petite théologie chrétienne pendant 18 siècles a été tournée autour de ce dilemme. Bon, on a tué Jésus, c'est Jésus qui l'a tué, mais il fallait bien qu'il meure pour la rédemption de l'humanité. Et entre la vérité théologique et la vérité historique, on n'a jamais trouvé l'assiette.
Il n'y en a pas d'assiette, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Et je pense que ce que j'essaye moi, de faire, de plus en plus j'en parle clairement, mais pendant 40 ans nous avons étudié ce problème et j'en parlais jamais, c'est d'essayer d'aider les chrétiens à se sortir de cette impasse. S'ils arrivent à voir clairement qu'il s'agit d'une figure et non pas d'un être historique, peut-être qu'on pourra céder mutuellement à reformuler la théologie du judaïsme chez les chrétiens.
La théologie chrétienne du judaïsme. Vous êtes trop optimiste.
Non, non, les précurseurs sont toujours optimistes.
Vous
savez. Ça viendra.
Il court sur ce vidal qui lui, c'est bien de l'air. Le curé fait un cours très émouvant sur le petit Jésus qu'on a mis aux enfants, qu'on a mis en froid, les bourreaux lui ont renforcé des clous dans les mains et dans les pieds, tous les enfants pleurent, parce que c'est très émouvant, et l'un dit ne pleure pas. Comment toi tu ne pleures pas, tu n'es pas ému, et l'enfant répond, il fallait bien qu'il tienne.
Vous savez, nous aurons à lire le paragraphe suivant, comme on l'a avant. On n'en parle pas. Autant. Alors, je vais vous dire, Quetzal, et comment ce serait une préparation providentielle à la messianité juive authentique? Kevar, nit malé avalam, comment? Eh bien, déjà, dit Maïmonide, le monde s'est empli, coulot, tout entier, mais devarim à Mashiach, des paroles du Messie. Ça veut dire tout le monde parle du Messie. C'est déjà une préparation colossale. Ou midi bré à Torah, et on cite la Bible, des paroles de la Torah. Oui, du vrai mitzvot, on parle de mitzvot pour être contre, mais on en parle peut-être. Ou Pashtou de Varimelou, Beim Rechokim, et on parle de ces choses-là dans les îles les plus lointaines. Et chez de nombreux peuples, incirconcis de cœur. Et ils disputent de cela. Ou des mitzvot à Torah et des mitzvot de la Torah. Et nous, Omrim, cela disent mitzvot et l'Ouemet, Rayou, ou Kva, Batlou, Bismanazé. Ces mitzvot étaient vraies, seulement elles sont devenues caduques. Vélo Rayou, nous, à gauche, les Dorot, elles n'ont pas été données pour l'éternité, pour toutes les générations. Vélo, Omrim, et d'autres dites, des barim, istarim, isbaem. Il y a des choses symboliques dedans. Vélan, kipshutal, il ne faut pas les prendre à la lettre. Ou Kva, Bar, Mashiach, et déjà le Messie est venu, Vélan, istarim, et a dévoilé ses secrets. Mais lorsque le roi Messie vrai, vrai, se dressera, et qu'il réussira, et qu'il s'affermira de tout son programme, alors tous seront vraiment chez Sheker Nahalou Avodehem, qu'ils avaient hérité de mensonges de leur père, plutôt dans un verset de Jérémie, que leur père avait hérité de mensonges, ou Béchemélihem, Avodehem, Itaoum, et ce sont leurs prophètes et leurs pères qui les ont trompés. C'est de l'optimisme radical. Je veux simplement citer une formule que j'ai entendue une fois de M. Levinas, qui va dans ce sens-là d'ailleurs, lorsque j'ai mis des doutes sur l'authenticité de ces dialogues judéo-chrétiens, il m'a dit, mais vous comprenez, en Inde, on parle de Adam, grâce à qui, grâce aux chrétiens. Comment je parle avec un hindou, on peut dire qu'il n'y a rien de commun, parce qu'il ne sait pas qui c'est Adam Arishon. Mais s'il est chrétien, il sait qui c'est Adam Arishon. Moi, ça ne me convainc pas. Je pense que parler de Adam Arishon avec quelqu'un qui n'est pas passé par la théologie chrétienne ou musulmane, c'est peut-être beaucoup plus clair qu'avec celui qui serait passé déjà. Parce que je crois que c'est, encore une fois, un défaut des Juifs de la Galoute. Parce que on s'est habitué au lien avec les nations à travers le christianisme ou l'islam. Alors que nous sommes dans un temps nouveau, où en hébreu, nous avons un lien direct avec les goïms qui ne passent pas par l'église et la mosquée. Et que c'est un temps autre. Vous comprenez le problème? Bien. Alors on va quand même s'arrêter là et on se revoit à 8h30 tout à l'heure. Merci.